Chant second. Chanter. Io pan. Deux fois chanter. Io pan. La proie que je convoitais est tombée dans mes filets. Que l'amant joyeux saigne mon front de verte couronne et m'élève au-dessus du chantre d'Ascra et du vieillard de Méonie. Tel autrefois le fils de Priam, livrant au souffle des vents ses blanches voiles, entraînait au loin de la belliqueuse Amyclée, l'épouse de son hôte, ou tel encore ce jeune étranger t'enlevait sur son char triomphant, ô Hippodamie. Jeune homme, pourquoi cet empressement? Votre esquif vogue en pleine mer, et le port qu'il faut atteindre est encore loin de nous. Il ne suffit pas que mes leçons vous aient servi à conquérir le cœur d'une belle. Si vous devez ce succès à mon art, que mon art vous apprenne à le conserver. Et croyez-moi, il n'y a pas moins de mérite à savoir garder une conquête qu'à la faire. L'un est l'effet du hasard, l'autre est une œuvre de science. Maintenant, ô Cythéré, et toi, son fils, si jamais vous me fûtes propice, maintenant, Erato, toi dont le nom veut aussi dire amour, venez à mon aide. Je médite de vastes projets. Je dirai par quel art on peut fixer cet enfant qui toujours va courant çà et là dans cet immense univers. De cet enfant dont la légèreté accrue encore par le secours de deux ailes qui le transportent partout à son gré rend si difficile la tâche de lui imposer un frein. Minos avait tout prévu pour empêcher son hôte de fuir, mais celui-ci osa tenter en volant le moyen d'échapper à la servitude. À peine Dédale avait-il enfermé le monstre moitié homme et moitié taureau, fruit des amours d'une mère criminelle, qu'abordant Minos, il lui dit « J'attends de ta justice que tu mettes un terme à mon exil, que la terre natale reçoive ma cendre, et puisque la colère des dieux ne m'a pas permis de vivre dans ma patrie, qu'au moins j'y puisse mourir. Si ma vieillesse te semble indigne de cette grâce, laisse partir mon fils, ou pardonne au vieillard si tu refuses de pardonner à l'enfant. » À ces raisons, à ces prières, il en ajoutait beaucoup d'autres, et Minos, inflexible, persistait dans son refus. Dès qu'il comprit l'inutilité de ses efforts, « Dédale, se dit-il à lui-même, voici le moment de prouver ton génie. » Minos règne sur terre. Il règne aussi sur les flots. La terre et l'eau s'opposent à ta fuite. L'air au moins reste libre, et c'est la voie qu'il te faut tenter. Puissant Jupiter, seconde mon entreprise. Je ne prétends pas heurter de mon front ton céleste palais, mais je n'ai que ce chemin pour fuir mon tyran. Fallut-il traverser le Styx, je le traverserai. Permets-moi donc de changer les lois de ma nature. Le malheur rend ingénieux, qui croirait en effet qu'un homme pût se frayer un chemin à travers les airs. Il dispose alors des plumes en forme d'ailes et les joint les unes aux autres avec du fil de lin. Les extrémités de chaque aile sont liées avec de la cire fondue au feu. Enfin, ce merveilleux travail était achevé. Icare manie tout joyeux cette cire et ses plumes, ignorant que cet appareil est destiné à ses épaules. « Voici, dit alors son père, voici le navire qui doit nous transporter dans notre patrie. Grâce à lui, nous fuirons Minos. Si Minos nous a fermé les autres routes, il ne peut pas nous interdire celle de l'air. Et à l'aide de mon art, j'oserai la franchir. Mais garde-toi d'approcher trop de la grande ours, d'Orion, armé de son glaive et du bouvier qui l'accompagne. Mesure ton vol sur le mien. Je te précéderai. Contente-toi de me suivre. Tant que tu m'auras pour guide, tu seras en sûreté. Car, si dans notre course aérienne, nous arrivions trop près du soleil, la cire de nos ailes n'en pourrait supporter la chaleur. Si au contraire, planant trop bas, nous effleurions la surface de l'eau, nos plumes, une fois imbibées de cet élément, perdraient leur élasticité. Soutiens ton vol entre ces deux extrêmes. Crains aussi les vents, ô mon fils, et laisse à leur gré voguer tes voiles. » Pendant qu'il lui donne ses avis, il fixe les ailes aux épaules de l'enfant et lui apprend à les faire mouvoir. Ainsi l'oiseau apprend à voler à sa couvée débile. Enfin, Dédale s'ajuste ses propres ailes et prélude en se balançant avec timidité dans la route nouvelle qu'il va franchir. Prêt à prendre son vol, il embrasse son fils, et sa paupière est humide de larmes paternelles. Non loin de là était une colline qui, ne s'élevant pas tout à fait à la hauteur d'une montagne, dominait cependant la plaine. C'est de là qu'ils s'élancent pour commencer leur dangereux voyage. Dédale fait manœuvrer ses ailes et ne perd pas de vue celle de son fils. Lui-même soutient son vol avec une mesure toujours égale. D'abord, la nouveauté du voyage a des charmes pour eux. Mais bientôt, bannissant toute crainte, l'audacieux Icare dépasse dans son vol les bornes prescrites par son père. Un pêcheur les aperçut tandis qu'il jetait sa ligne au poisson et le roseau flexible lui tomba des mains. Déjà, ils ont laissé sur la gauche Samos, Naxos, Paros et Délos, cher à Phébus. À leur droite sont Libinthe, Calymne, aux forêts sombres, et Astypalée, entourée de marais poissonneux. Alors, Icare, téméraire comme on l'est à cet âge imprévoyant, s'élève trop haut dans les régions de l'air et abandonne son guide. Aussitôt, les liens des ailes se relâchent. La cire se fond au contact plus immédiat du soleil et les bras d'Icare battent, impuissants, l'atmosphère trop subtile. Du haut du ciel, il laisse tomber sur la mer un regard d'épouvante, puis un voile sombre, triste effet de sa frayeur, couvre ses yeux et lui dérobe le jour. La cire est effondue. En vain, il agite ses bras dépouillés, tremblant, dépourvu de soutien. Il tombe, et dans sa chute, il s'écrie « Mon père, oh mon père, je suis entraîné !» Il dit, et les mots de la mère azurée étouffent ses paroles. Le malheureux père, mais déjà il a perdu ce titre, lui crie à son tour « Icare, Icare, où es-tu ? Sous quel cercle du pôle diriges-tu ton vol ?» Et il l'appelait encore quand il vit les ailes flotter sur les eaux. La terre reçut la dépouille d'Icare et la mer porte encore son nom. Ainsi, Minos n'a pu arrêter le vol d'un homme, et moi, j'entreprends d'enchaîner celui d'un dieu aussi léger que l'oiseau. C'est se tromper grossièrement que d'emprunter à l'art des sorcières thessaliennes, ou bien encore à cette substance que l'on dérobe au front du jeune poulain, le secret de faire naître l'amour, l'herbe de Médée, le poison des Mars et leur enchantement n'y peuvent rien. Médée eût retenu Jason et Circé Ulysse si la magie eut quelque pouvoir sur l'amour. Il est donc inutile de faire boire aux jeunes filles des philtres amoureux. Les philtres troublent la raison et n'engendrent que la fureur. Loin de vous donc ces coupables artifices. Si vous voulez être aimé, soyez aimable. Sans cela, les charmes de la figure et l'élégance de la taille seront insuffisants. Fussiez-vous niré, si vanté par le vieil Homère, ou bien Hylas, enlevé par les criminels naïades, pour fixer une maîtresse et pour n'avoir pas à vous étonner qu'un jour elle vous délaisse, il faut, aux avantages du corps, joindre les agréments de l'esprit. La beauté est un bien périssable, le temps la flétrit. Elle devient la victime de sa propre durée. Les fleurs de la violette et du lys ne sont pas éternelles, et sur la tige dépouillée où fut la rose, il ne reste bientôt plus que des épines. Un jour, beau jeune homme, votre chevelure blanchira, et les rides viendront défigurer vos traits. Formez-vous donc de bonne heure un esprit solide, et faites-en l'auxiliaire de la beauté. C'est le seul compagnon qui nous reste fidèle jusqu'au tombeau. Appliquez-vous à l'enrichir de connaissances littéraires et étudiez les deux langues. Ulysse n'était pas beau, mais il était éloquent et les divinités des mers ont brûlé d'amour pour lui. Que de fois Calypso se désola-t-elle lorsqu'il se préparait à partir. Que de fois lui objecta-t-elle l'inopportunité de la saison et l'inconstance des flots. Sans cesse, elle lui faisait répéter l'histoire du siège de Troie, et toujours Ulysse savait en varier le récit. Un jour, sur le bord de la mer, sa belle amante voulut qu'il racontât la tragique aventure du prince de Thrace. Ulysse, avec une baguette qu'il tenait à la main, la lui retraçait sur le sable. Ici, disait-il, est Troie, et il en figurait les murs. Ceci est le Simoïs. Là, j'avais établi mon camp. De ce côté était une plaine. Il en décrivait l'enceinte. Que nous arrosâmes du sang de Dolon, la nuit où il tenta de s'emparer des chevaux d'Achille. Plus loin s'élevaient les tentes de Rhésus, prince de Thrace, et dont j'enlevai les chevaux dans cette même nuit. Le héros continuait sa description quand soudain une vague fit disparaître à leurs yeux Troie et Rhésus de son camp. « Osez donc, dit-il alors à la déesse, osez donc vous fier à ces flots qui viennent en un clin d'œil d'effacer si grand nom. Qui que vous soyez, n'ayez qu'une faible confiance dans les agréments trompeurs de la figure, ou menussez-vous de quelque autre chose de moins éphémère. Une complaisance adroite prévient en votre faveur, tandis que la rudesse des manières provoque la haine et les désordres qui la suivent. Nous haïssons le vautour qui ne dépose jamais les armes, et le loup qui sème l'épouvante parmi les troupeaux. Mais l'homme ne tend point de piège à la douce hirondelle, et les tours élevées par ses mains servent d'asile à la colombe. Loin de vous les querelles et les contestations fâcheuses, le tendre amour ne se nourrit que de douces paroles. Laissons les femmes et les maris se quereller entre eux. Croire en agissant ainsi se payer d'un juste retour, cela sied à des époux. Les querelles sont la dot du ménage. Mais des paroles aimables doivent seules flatter l'oreille d'une maîtresse. Ce n'est pas la loi qui vous a introduit dans la même couche. L'amour seul a rempli ses fonctions. N'abordez donc votre ami qu'avec de tendres caresses et un langage dont la douceur la pénètre. Si vous voulez que votre présence soit pour elle un motif de joie. Ce n'est point aux riches que je viens enseigner l'art d'aimer, car pour qui a de quoi donner, cet art est inutile. Il a toujours assez d'esprit celui qui peut dire lorsqu'il lui plaît « Acceptez ceci, je lui cède le pas, ses moyens de séduction l'emportent sur les miens. Je suis le poète du pauvre, parce que, pauvre moi-même, j'ai aimé. » Ne pouvant donner des cadeaux, je donnais des vers. Mais que l'homme pauvre soit circonspect dans ses amours, qu'il craigne de médire et sache supporter bien des choses que ne supporterait pas le riche. Je me rappelle que, dans un moment de mauvaise humeur, je mis en désordre la chevelure de ma maîtresse. Hélas, que cet emportement me coûta de beaux jours! Je ne m'aperçus pas, et je ne le crois pas même encore, que j'avais déchiré sa robe. Mais elle le prétendit, et mon argent paya ma sottise. Ô vous qui m'écoutez, plus sage que votre maître, ne tombez pas dans la même faute, et craignez-en les suites ruineuses. Soyez en guerre avec le Parthe, mais vivez en paix avec votre ami. Appelez à votre aide les jeux et les ris, et tout ce qui peut entretenir l'amour. Votre maîtresse est-elle peu souple et peu traitable? Prenez patience et courage, et bientôt elle s'adoucira. Le jeune rameau se courbe sous une main prudente. Il se brise si vous faites sur lui l'épreuve de vos forces. Vous passerez les fleuves à la nage en cédant au courant, mais vous tenterez en vain de lutter contre le fil de l'eau. On dompte à force de douceur le tigre et le lion de Numidie. Et c'est aussi par ce moyen qu'on habitue peu à peu le taureau à courber sa tête sous le joug. Fut-il une beauté plus sauvage que l'arcadienne Atalante? Un galant sut pourtant lui plaire, et elle céda, toute rebelle qu'elle était. Que de fois Milanion à l'ombre des forêts déplora, dit-on, son martyre à la cruauté de son ami. Souvent, pour lui obéir, il chargea ses épaules de filets trompeurs. Souvent, il perça de ses javelots le sanglier farouche. Il vit même couler son sang sous le coup d'une flèche partie de l'arc de son rival Ilé. Mais un arc plus terrible l'avait déjà blessé. Je ne prétends pas qu'ainsi armé, vous parcouriez les sommets du Ménal, ni que vous chargiez vos épaules de filets pesants, ni qu'enfin vous présentiez votre poitrine aux traits lancés contre vous. Les préceptes de mon art sont moins exigeants. Cédez aux volontés de votre maîtresse, et la victoire sera le prix de vos concessions. Prêtez-vous à tous ses caprices, à tous ses désirs. Ce qu'elle blâme, blâmez-le. Approuvez ce qu'elle approuve. Riez si elle rit. et si elle pleure, pleurez. Ayez enfin l'air qu'elle affecte elle-même. Mais elle veut jouer, et déjà elle agite les dés d'ivoire. Quand viendra votre tour, jetez-les maladroitement, puis passez-lui la main. Si vous jouez aux osselets, tâchez, pour lui épargner les chagrins d'une défaite, d'amener un fatal dans Bézas. Luttez-vous enfin l'un contre l'autre sur un échiquier, faites que vos pions de verre tombent sous les coups de l'ennemi. Ayez soin d'avoir toujours à son service une ombrelle déployée. Traverse-t-elle la foule? Faites-lui faire place. Hâtez-vous d'avancer un marchepied près du lit qui va la recevoir. Enlevez ou remettez les sandales à son pied délicat. A-t-elle froid aux mains? Quoique transi vous-même, n'hésitez pas à les réchauffer dans votre sein. Ne rougissez pas, car cette complaisance honteuse en effet sera bien accueillie, de déroger à votre dignité d'homme libre pour lui tenir le miroir. Le héros, vainqueur des monstres suscités contre lui par une marâtre dont il lassa la haine, ce héros qui mérita une place dans le ciel dont il avait porté le poids, Hercule, au milieu des jeunes filles d'Ionie, portait, dit-on, leur corbeille et travaillait à de grossiers ouvrages de laine. Le héros de Tirynthe fut docile aux ordres de sa maîtresse. Allez donc vous plaindre maintenant de souffrir ce qu'il souffrait lui-même. Veut-elle vous voir au forum? Ayez soin de devancer l'heure indiquée et soyez des derniers à vous retirer. Vous donne-t-elle ailleurs un rendez-vous? Quittez tout aussitôt, volez et qu'aucun obstacle ne vous arrête. Si, retournant chez elle, la nuit au sortir d'un banquet, elle appelle un esclave, offrez-vous pour lui en tenir lieu. Êtes-vous à la campagne? Elle vous écrira « Revenez sur le champ ». L'amour et la paresse sont incompatibles. Faute de voiture, faites la route à pied. Que rien ne vous arrête, ni l'ardeur de la canicule, ni les brumes de l'automne, ni la neige qui couvre les chemins. L'amour est une sorte de milice. Soyez-en exclus, hommes pusillanimes. Les lâches ne sauraient défendre ces étendards. Les voiles de la nuit, la rigueur des hivers, la longueur des routes, les souffrances du corps, mille peines enfin sont la perspective qui vous attend dans vos expéditions amoureuses. Souvent vous serez battu par la pluie, et souvent vous coucherez sur la dure, exposé aux inclémences de l'air. Apollon garda, dit-on, les troupeaux d'Admète, et une modeste cabane lui servit d'asile. Qui rougirait de faire ce que fit Apollon? Dépouillez tout orgueil si vous aspirez à un attachement durable. Un accès facile et sûr, vous est-il refusé? Et trouvez-vous les portes fermées au verrou? Escaladez les toits, glissez-vous furtivement par une fenêtre élevée. Votre amie se réjouira de voir que pour elle vous exposez vos jours, et vos dangers même seront les garants de votre amour. Souvent, ô Léandre, tu pouvais t'abstenir de voir ta maîtresse, mais tu bravais la fureur des flots pour lui prouver ton courage. N'ayez pas honte d'attacher à votre cause les suivantes de votre maîtresse selon le rang qu'elles occupent, et même de simples valets. Saluez chacun d'eux par son nom. Cette humiliation ne sera pas perdue. Amants ambitieux, pressez de vos mains leurs mains serviles. Faites aussi quelques petits cadeaux à celui qui se réclame de votre générosité. Ces largesses vous coûtent peu de choses. Donnez aussi à la suivante, le jour surtout qu'elle célèbre en l'honneur de l'heureux travestissement des servantes romaines et qui fut si fatal aux Gaulois. Attachez-vous, si vous m'en croyez, tout le petit peuple. N'oubliez ni le portier, ni le gardien de la chambre à coucher. Je n'exige point que vous fassiez de riches présents à votre maîtresse. Donnez-en au contraire de modestes, mais que la propos en fasse le mérite. Quand la récolte est abondante, quand vos arbres sont chargés de fruits, qu'un esclave lui apporte de votre part une corbeille pleine de ces dons champêtres. Vous pouvez dire, les eussiez-vous achetés sur la voie sacrée, qu'ils viennent d'une campagne voisine de Rome. Tantôt, envoyez-lui des raisins, des châtaignes autrefois chères à Amaryllis, mais qu'elle n'aime plus aujourd'hui. Tantôt des grives disposées en forme de couronne, et tantôt des colombes, le tout pour lui prouver que vous ne l'oubliez pas. C'est par de telles prévenances, je le sais, qu'on arrive aussi à se concilier les bonnes grâces d'un vieillard sans enfant et à capter sa succession. Mais périssent ceux dont les offrandes cachent une arrière-pensée criminelle. Vous recommanderais-je d'envoyer aussi parfois quelques vers tendres ? Hélas, les vers n'ont qu'un mince crédit. On leur donne des éloges. Mais les présents, plus positifs, sont accueillis avec une avide préférence. Un rustre plaira, pourvu qu'il soit riche. Le siècle où nous vivons est en effet le siècle d'or. Avec l'or, on achète les honneurs. Avec l'or, on obtient les faveurs de l'amour. Fussiez-vous accompagné des muses, Homer, divin Homer, si vous veniez les mains vides, vous seriez congédié. Il est cependant, mais en bien petit nombre, des femmes instruites. Il en est d'autres qui ne le sont pas, mais qui veulent le paraître. Dans vos vers, cependant, il faut louer les unes et les autres. N'oubliez pas surtout, en lisant ces vers, de les embellir par les charmes du débit. Comme ils ont été composés pour elles, doctes ou ignorantes, elles les agréeront peut-être et les considéreront comme un petit cadeau. Tâchez néanmoins que tout ce que vous devez faire et tout ce que vous croirez utile soit demandé par votre maîtresse. Vous avez promis la liberté à un de vos esclaves, qu'il s'adresse à elle pour l'obtenir. Vous voulez en exempter un autre d'une correction ou relâcher ses fers, n'accordez qu'aux prières de la belle le pardon auquel vous étiez résolu. Elle en aura l'honneur et vous le profit. Donnez-lui le titre d'amie influente et ne perdez aucune occasion de lui laisser croire qu'elle a sur vous un pouvoir absolu. Mais si vous avez à cœur de conserver son amour, faites en sorte qu'elle vous suppose ravie de ses charmes. Est-elle revêtue de la pourpre de Tyr ? Prodiguez les éloges aux habits de pourpre. Sa robe vient-elle de l'île de Kos ? Dites qu'elle lui sied à merveille. Est-elle brodée d'or ? Dites qu'elle est encore éclipsée par les attraits de celle qui la porte. Est-elle garnie de fourrure ? Vantez-en la somptuosité. Criez à l'aspect de sa simple tunique. Vous portez la flamme dans mon cœur, mais priez-la avec timidité de se garantir des atteintes du froid. A-t-elle les cheveux artistiquement séparés au sommet de la tête ? Rendez hommage à ce genre de coiffure. Les fristelles ? Ah, direz-vous, cette frisure est charmante ! Admirez ses bras quand elle danse, sa voix quand elle chante, et plaignez-vous qu'elle cesse toujours trop tôt de faire valoir ce double talent. Admirez tout en elle, jusqu'à ses poses voluptueuses, et traduisez par des paroles quelques-unes des sensations qu'elle vous fait éprouver. Après cela, serait-elle plus redoutable que la farouche méduse, vous la verrez s'adoucir et se rendre bientôt à vos désirs. Gardez-vous cependant de paraître dissimulée, et craignez que votre visage ne démente vos discours. Car si la ruse voilée est utile, démasquée, elle vous couvre de confusion et par un juste châtiment détruit à jamais la confiance. Souvent, pendant l'automne d'une belle année, lorsqu'on voit sous son enveloppe purpurine briller le jus du raisin parvenu à sa complète maturité, tantôt un froid rigoureux, tantôt une chaleur étouffante se font sentir. Et cette inconstance de la température nous jette dans la langueur. Peut-être votre maîtresse n'en ressentira-t-elle pas les effets, mais aussi peut-être cette influence pernicieuse en l'en rendant malade la forcera-t-elle de garder le lit. C'est alors que votre amour et votre sollicitude doivent éclater. C'est le moment de semer pour recueillir avec abondance. Que son mal, tout triste et tout ennuyeux qu'il soit, ne vous rebute point. Rendez-lui vous-même les services qu'elle voudra bien recevoir de vous. Qu'elle vous voie verser des pleurs, qu'aucune répugnance ne suspende vos baisers et que sa bouche aride soit humectée de vos larmes. Faites tout haut des vœux pour sa guérison et, dans l'occasion, ayez quelques songes de bon augure à lui raconter. qu'une vieille femme vienne purifier sa chambre et son lit, et que, d'une main tremblante, elle apporte le soufre et les œufs expiatoires. Votre ami conservera le souvenir de toutes ses attentions. Combien se sont ainsi frayées la route des faveurs d'une belle. Craignez toutefois qu'un zèle trop officieux n'aille vous attirer la haine de la malade. Gardez dans vos soins une juste mesure. Ne contrariez pas trop son appétit. Et s'il faut lui faire prendre une potion amère, laissez à un rival cette tâche périlleuse. Mais le vent qui vous guidait au sortir du port ne doit plus vous guider en pleine mer. L'amour est faible à sa naissance. L'habitude lui donnera des forces. Sachez l'alimenter, il deviendra stable avec le temps. Vous caressiez dans son jeune âge ce taureau que vous redoutez maintenant. L'arbre qui vous prête aujourd'hui son ombre ne fut qu'un frêle rameau. Ce faible ruisseau a grandi dans son cours et les eaux se précipitant vers lui de toutes parts en ont fait un fleuve. Faites que votre maîtresse s'accoutume à vous. Rien n'est au-dessus de l'habitude. N'évitez ni peine ni ennui pour vous gagner son cœur. Qu'elle vous voie et vous entende sans cesse. La nuit comme le jour, soyez présente à sa pensée. Lorsqu'enfin vous serez assuré qu'elle s'occupe de vous et que votre absence lui donne de l'inquiétude, alors prenez quelque relâche. Le champ qui s'est reposé quelque temps rend avec usure la semence qu'on lui a confiée, et le sol aride absorbe avec avidité les eaux du ciel. Tant que Démophon fut près de Phyllis, elle ne ressentit qu'avec modération les feux d'un amour qui la consuma aussitôt après le départ de son époux. L'absence du prudent Ulysse fut pour Pénélope la cause de tourments cruels. Et tes pleurs, ô loi d'amis, appelaient le retour de Protésilas. Mais vous, pour plus de sûreté, abrégez la durée de votre séparation. Le temps calme les inquiétudes. L'amour absent s'évanouit. Un nouveau le remplace. Éloignée de Ménélas, Hélène, pour tromper l'ennui de sa solitude, s'abandonna tout entière aux caresses brûlantes de son hôte. Quelle sottise fut la tienne, ô Ménélas! Tu partais seule et laissais sous le même toit ta femme et un étranger. N'as-tu pas confié à la serre du vautour la timide colombe? N'as-tu pas ouvert ta bergerie au loup dévorant? Hélène n'est point coupable. Son amant ne l'est pas davantage. Toi-même ou tout autre en eussiez fait autant à sa place. Tu sollicitais l'adultère en lui donnant à la fois le temps et le lieu favorable à sa consommation. Qui semblait conseiller ta femme si ce n'est toi-même? Que fera-t-elle? Son époux est absent? Un étranger trop aimable se présente pour la consoler? Elle craint la solitude de sa couche. Que Ménélas en pense ce qu'il voudra. Selon moi, Hélène est innocente. Elle a mis à profit l'occasion que lui offrait un époux trop commode. Mais le féroce sanglier n'est pas plus redoutable lorsque, d'une dent furieuse, il déchire et fait rouler sur le sol les chiens acharnés après lui. La lionne, qui allaite ses lionceaux, la vipère que blesse le pied d'un imprudent voyageur, ne sont pas plus à craindre qu'une femme qui surprend une rivale dans le lit de son mari. La fureur qui gronde en son âme se peint sur son visage. Le fer, la flamme, tout est arme pour elle, et bravant toute pudeur, elle n'est plus bientôt qu'une bacchante tourmentée par le dieu Daoni. La barbare Médée vengea sur ses enfants les droits outragés de la foi conjugale, et cet autre marâtre, aujourd'hui changé en hirondelle, porte encore empreinte sur sa poitrine les traces sanglantes de son forfait. Les liens les plus étroits, l'amour le plus solide, se brisent devant les fureurs de la jalousie, et tout homme prudent doit se garder avec soin de les réveiller. Je ne prétends pas cependant, législateur austère, vous enchaînez au char d'une seule belle, à Dieu ne plaise. À peine une femme mariée peut-elle s'assujettir à cette loi. Permettez-vous quelques écarts, mais que l'ombre du mystère s'étende sur vos tendres larcins, et ne cherchez jamais à en tirer vanité. Ne faites à l'une aucun présent que l'autre puisse reconnaître. Changez l'heure et le lieu de vos rendez-vous, de peur qu'une d'elles ne vous surprenne dans une retraite qu'elle connaît elle-même. Lorsque vous écrirez un billet, relisez-le avant de l'envoyer. Une femme y lit souvent plus qu'il ne dit en effet. Vénus, blessée, a le droit de courir aux armes, de lancer trait pour trait et de vous faire repentir d'avoir le premier engagé le combat. Tandis qu'Agamemnon se contenta de sa compagne, elle fut chaste. L'exemple seul de son mari la rendit coupable. Clytemnestre avait appris que Chrysès, le laurier à la main et le front ceint de bandelettes sacrées, avait enfin redemandé sa fille. Elle avait appris, ô Briseis, la cause de tes secrètes douleurs et des honteux regards de la guerre de Troie. Elle sut tout cela d'abord par de simples ouï-dire, mais ensuite ne vit-elle pas de ses propres yeux la fille de Priam et le vainqueur portant, sans rougir, les fers de sa captive. Alors, la fille de Tyndare ouvrit à Égisthe et son cœur et son lit, et se vengea par un crime du crime de son époux. Si malgré vos précautions, vos amours viennent à transpirer, quelque indice qu'on en ait, niez toujours. Ne vous montrez toutefois ni plus soumis, ni plus caressant que de coutume, car ce sont là les signes d'un cœur qui se sent coupable. Mais payez largement de votre personne en sacrifiant à Vénus. La paix est à ce prix. C'est Vénus qu'il faut avant tout désarmer. Il en est qui, dans ce cas, vous conseilleront de prendre des herbes nuisibles, telles que la sarriette ou du poivre mêlé à la graine mordante de l'ortie ou une infusion de pyrèthre dans du vin vieux. Ce sont là de vrais poisons, à mon avis. Et la déesse révérée sur le mont Eryx s'indigne qu'on ait recours à de pareils stimulants lorsqu'on sacrifie sur ses autels. L'oignon blanc, qui nous vient de Mégare, la plante aphrodisiaque qui croît dans nos jardins, les œufs, le miel de l'hymette, le fruit que, sous sa coque noueuse, renferme le pain, ont aussi leur mérite, dit-on. Mais pourquoi, divine Erato, parler ici d'un art qui est de la compétence d'Esculape? Rentrons dans la carrière dont nous nous écartons. Vous, à qui je conseillais tout à l'heure de dissimuler vos infidélités, maintenant quittez cette voie, et si vous m'en croyez, publiez vos nouvelles conquêtes. N'allez pas cependant m'accuser d'inconséquence. Le même vent n'enfle pas toujours nos voiles. Au soufre de Borée succède celui de l'Eurus. Aujourd'hui la laine du zéphyr fait voguer notre esquif. Demain ce sera le vent de midi. Voyez comme la main qui conduit le char tantôt laisse flotter les rênes et tantôt ralentit avec adresse l'ardeur de ses coursiers. Il est des amants que sert mal une timide indulgence. L'amour de leur maîtresse sommeille si quelque rival ne vient le rallumer. Le bonheur souvent nous enivre et permet difficilement au cœur de modérer ses jouissances. Comme le feu qui perd insensiblement de sa force disparaît sous la cendre blanchâtre qui couvre sa cime, puis se rallume tout à coup à l'aide du soufre et brille de son premier éclat, ainsi le cœur que trop de sécurité rend paresseux a besoin de quelques stimulants pour réveiller son énergie. Inspirez donc la défiance, ranimez ainsi une flamme assoupie, et qu'on pâlisse à la preuve de votre inconstance. Oh, mille et mille fois heureux, celui dont l'infidélité arrache des larmes à sa maîtresse, et dont le crime, aussitôt qu'elle l'apprend, la fait tomber sans couleur et sans vie. Que ne suis-je le mortel fortuné pour qui, dans sa fureur jalouse, elle s'arrache les cheveux et déchire son visage avec ses ongles? Que ne suis-je cet amant qu'elle contemple les yeux baignés de larmes, contre lequel elle lance des regards courroucés, sans lequel, enfin, elle ne veut ni ne peut vivre, quelque violence qu'elle se fasse. Si vous me demandez combien de temps il faut la laisser ainsi livrée à son chagrin, peu de temps, vous dirai-je, de peur qu'un trop long retard n'aigrisse trop sa colère. Jetez vos bras autour de son cou. Recevez-la tout éplorée sur votre sein, et que de tendres baisers donnant le signal du plaisir viennent sécher ses pleurs. C'est le seul moyen de la fléchir et d'étouffer son ressentiment. Lorsqu'elle se sera bien emportée, lorsqu'elle paraîtra décidément votre ennemie, demandez-lui à signer sur son lit le traité de paix, et les rigueurs de la belle s'adouciront. C'est sur l'autel de la volupté que la discorde dépose ses armes. C'est, croyez-moi, sur ce même autel que naquit le pardon. En guerre, il n'y a qu'un instant. Les jeunes colombes unissent bientôt après leur bec caressant et leur roucoulement semble un langage, ce qui s'échappe en murmures amoureux. Une masse informe fut le premier tableau qu'offrait la nature. Le ciel, la terre et la mer étaient confondus. Bientôt, au-dessus de la terre, s'éleva le firmament. La mer, comme une ceinture, entoura la terre, et l'ordre succéda au chaos. Les forêts furent peuplées d'animaux sauvages. L'empire de l'air appartint aux oiseaux, et l'eau servit de retraite aux poissons. Les hommes erraient alors dans les campagnes désertes, et la force faisait tout le mérite de ces corps grossiers et endurcis. Les bois étaient leur asile, l'herbe leur nourriture, et le feuillage leur lit. Ils restèrent ainsi longtemps étrangers aux liens de la société. La douce volupté adoucit, dit-on, ses caractères farouches. L'homme et la femme s'étaient rencontrés, et aucun maître ne leur avait appris ce qu'ils avaient à faire. Vénus accomplit cette tâche si douce. L'oiseau a une compagne qu'il aime. Le poisson cherche au sein des eaux la même affection, les mêmes plaisirs. La biche suit le cerf. Le serpent s'enlace tout serpent. La chienne adultère s'accouple avec le chien qu'elle a mis bas. La brebis reçoit les caresses du bélier. La génisse, celle du taureau. La chèvre, celle du bouc, tout immonde qu'il est. Et pour rejoindre le coursier, la cavale, transportée d'amour, franchit l'espace et traverse les fleuves à la nage. C'est donc à vous d'apaiser le courroux de votre ami par ce remède puissant qui seul porte avec lui le soulagement à la douleur, qui seul est plus efficace que tout l'art de Macaon, qui seul, enfin, si vous avez eu quelque tort, saura les faire oublier. Je chantais ainsi quand soudain Apollon m'apparut, et les sons harmonieux de sa lyre résonnèrent à mon oreille. Il portait dans sa main une branche et sur sa tête une couronne de laurier. D'un ton prophétique, il me fit entendre ainsi ses oracles. « Ô toi, maître dans l'art séducteur d'aimer, conquis tes disciples à mon temple, là est écrite cette maxime célèbre dans tout l'univers. Mortel, connais-toi toi-même. » Quiconque se connaîtra aura toujours la sagesse pour guide dans ses amours et n'entreprendra pas une tâche au-dessus de ses forces. Que celui à qui la nature a donné la beauté du visage sache en tirer parti. S'il a une belle peau, qu'il fasse, en s'appuyant, ressortir ses épaules avec art. Si sa parole est gracieuse, qu'il ne l'ensevelisse pas dans le silence. Est-il chanteur habile, qu'il chante. Hardi buveur, qu'il boive. Qui n'aille pas cependant au milieu de la conversation déclamer d'un ton pédantesque, ni poète maniaque y réciter ses vers. Ainsi parla Phébus. Soyez dociles à ces oracles. Les paroles d'un dieu méritent une entière confiance. Mais je reviens à mon sujet. La victoire sera le prix de la prudence en amour, et c'est à notre art qu'on en sera redevable. Le sillon ne rend pas toujours avec usure la semence qu'on y a jetée, et les vaisseaux ne voguent pas toujours par un vent favorable. Les amants trouvent sur leur chemin plus d'épines que de roses. Ils doivent s'attendre à de rudes épreuves. Autant il y a de lièvres sur le mont Athos, d'abeilles sur le mont Hybla, d'olives sur l'arbre de Pallas et de coquillages sur les bords de la mer, autant il y a de peine en amour. Les traits que le Dieu nous lance sont trempés dans du fiel le plus amer. Votre maîtresse est sortie, vous dira-t-on, et cependant vous l'apercevrez chez elle. N'importe, croyez qu'elle est sortie, et que vos yeux vous trompent. Elle vous a promis de vous ouvrir la porte elle-même, et cependant la porte reste fermée. Souffrez-le patiemment et couchez sur la terre humide. Une suivante menteuse vous dira peut-être d'un ton arrogant. Pourquoi cet homme assiège-t-il sans cesse la porte ? Adressez alors des paroles caressantes à l'impitoyable suivante. À la porte même, et ornez-en le seuil des roses qui parent à votre front. Consentons à vous recevoir, accourez avec empressement. Vous évite-t-on au contraire, éloignez-vous. Un homme bien appris ne doit pas être importun. Que votre maîtresse ne puisse dire de vous, on ne peut s'en défaire. Les sens ne parlant pas toujours, n'ayez pas honte d'endurer les injures. Je dirais même les violences de la belle, ni d'embrasser humblement ses jolis pieds. Mais pourquoi nous arrêter à si peu de choses? Élevons notre essor et occupons-nous de sujets plus importants. Je vais chanter de grandes choses. Peuple des amants, prête-moi une oreille attentive. La matière sera difficile à traiter, mais le courage dédaigne un vulgaire triomphe et l'amour aime les difficultés. Souffrez patiemment un rival, vous finirez par rester vainqueur et vous triompherez jusque dans le temple du grand Jupiter. Croyez-en mes avis, qui ne sont pas les avis d'un simple mortel, mais les oracles mêmes des chaînes de Dodone. Mon art n'a rien de plus sublime à vous enseigner. Votre maîtresse fait-elle à un rival des signes d'intelligence? Souffrez-le avec stoïcisme. Lui écrit-elle? Respectez le secret de ses tablettes. Qu'elle aille et vienne partout au gré de sa fantaisie. Bien des maris ont cette complaisance envers leurs femmes, surtout lorsqu'un doux sommeil vient aider à les tromper. Je n'ai pas encore, je l'avoue, acquis moi-même le degré de perfection que j'enseigne ici. Qu'y faire? Les conseils que je donne, je n'ai pas la force de les suivre. Comment tolérerais-je en effet qu'un rival fît sous mes yeux des signes à la beauté que j'aime? Ne sentirais-je pas s'allumer ma colère? Je me souviens qu'un jour, ma maîtresse reçut en ma présence un baiser de son mari. Je m'en plaignis tant l'amour est plein de sottes susceptibilités. Plus d'une fois, ce défaut m'a nui près des femmes. Celui-là est plus habile qui souffre que les autres aille chez sa belle. Mais le mieux est de tout ignorer. Laissez-la cacher ses intrigues de peur qu'un aveu forcé de son amour ne l'oblige à en rougir. Oui, craignez, jeune téméraire, de surprendre vos maîtresses. Laissez-les plutôt vous tromper et croire que vous vous payez de leurs beaux discours. Deux amants surpris ne s'en aiment que mieux. Dès que leur sort est commun, ils s'endurcissent l'un et l'autre dans la faute qui causa leur perte. Il est une aventure connue de l'Olympe entier, c'est celle de Mars et de Vénus, pris en flagrant délit par les artifices de Vulcain. Le dieu de la guerre est pris d'un amour insensé pour la belle déesse, de guerrier redoutable qu'il était, devint un amant soumis. Et Vénus, dont le cœur est si sensible, ne fut point farouche, ni ne resta sourde aux prières de Mars. Que de fois, dit-on, la voluptueuse déesse tourna en ridicule son époux à la marche boiteuse, aux mains durcies par le feu et les travaux pénibles de son art. Elle contrefaisait devant son amant la démarche de Vulcain, et en imitant ses attitudes, elle n'en avait que plus de grâce. Leur commerce amoureux fut d'abord caché sous le voile de la plus austère pudeur. Mais le soleil, qui pourrait échapper à ses regards, découvrit à Vulcain l'infidélité de son épouse. Ô soleil, combien l'exemple que tu donnas alors fut pernicieux. Que ne mettais-tu un prix à ton silence? Les faveurs de Vénus, certes, t'eussent bien payé. À cette nouvelle, Vulcain dispose tout autour du lit d'un perceptible filet, chef-d'œuvre qui défiait l'œil le plus exercé. Puis il feint un voyage à Lemnos. Les amants viennent au rendez-vous et, soudain, l'un et l'autre, dans un état complet de nudité, se trouvent pris dans les raies. Alors, Vulcain rassemble les dieux et leur donne en spectacle ces deux captifs. Vénus, dit-on, put à peine retenir ses larmes. Vainement voulaient-ils se cacher, vainement leurs mains cherchaient-elles à voiler leur honte. « Puissant dieu de la guerre !» s'écriait alors un railleur. « Laisse-moi te soulager de ces chaînes, si elles sont pour toi trop pesantes !» Vulcain se rendit sans peine aux sollicitations de Neptune et rompit enfin les liens. Mars se retira en Thrace et Vénus à Paphos. Qu'as-tu gagné à tout cela, Vulcain ? Les deux amants, discrets et retenus auparavant, ont maintenant banni toute honte et n'en agissent qu'avec plus de liberté. Souvent, tu es convenu depuis que tu t'étais conduit comme un sot et tu t'es repenti de ta colère. Comme moi, Vénus vous défend ces ruses dont elle fut elle-même la victime. Ne tendez point d'embûche à votre rivale, et que la jalousie ne vous porte pas à intercepter les billets dont vous reconnaissez trop bien l'écriture. Laissez ce soin au mari, s'il trouve bon de le prendre. Les droits qu'ils ont acquis par la cérémonie de l'hymen les y autorisent. Quant à moi, je le répète encore, je n'enseigne rien de contraire aux lois. Nous n'associons à nos jeux aucune matrone qui oserait divulguer aux profanes les mystères de Cérès et les fêtes augustes qu'on célèbre dans la Samothrace. Si la discrétion en toute chose est une vertu peu méritoire, révéler un secret est une faute des plus graves. N'est-ce pas avec raison que Tantale, pour n'avoir pas su taire, souffre la faim et la soif sous un arbre chargé de fruits et au milieu des eaux ? La déesse de Cythère, surtout, recommande le silence sur ces mystères. Je vous en avertis, que nul indiscret n'approche de son temple. Si les attributs de son culte ne sont point cachés dans de mystiques corbeilles, si l'airain retentissant ne se fait point entendre à ses fêtes, si chacun de nous y est initié, c'est à la condition qu'ils ne seront point divulgués. Vénus elle-même, toutes les fois qu'elle quitte ses vêtements, ramène avec grâce sa main sur ses charmes secrets pour les soustraire au regard. Lorsque les troupeaux dans la plaine se livrent à leurs amoureux ébats, la jeune fille à cette vue détourne les yeux. Les retraites les mieux closes, les lits les plus sombres, sont les plus propres au larcin de l'amour, et nous couvrons de nos vêtements de honteuses nudités. Si nous ne cherchons pas tout à fait les ténèbres, nous cherchons du moins une obscurité favorable, quelque chose de moins que le grand jour. Lorsque les maisons ne nous garantissaient point encore du soleil ni de la pluie, quand le chêne nous offrait à la fois la nourriture et l'abri, c'était au fond des bois et des antres obscurs que l'on allait goûter les plaisirs de l'amour, tant la pudeur était chère à l'homme, tout grossier qu'il était alors. Mais aujourd'hui, on affiche le dérèglement, et il semble qu'on ne saurait payer trop cher le plaisir de le divulguer. N'arrête-t-on pas en tout lieu les jeunes filles pour dire aux premiers venus « En voilà encore une qui fut à moi !» Et cela pour en avoir toujours quelqu'une à montrer au doigt, pour que chaque femme ainsi compromise devienne la fable de la ville ? Ce n'est rien encore. Il en est elles qui se vantent de choses qu'ils désavoueraient si elles étaient véritables. Il n'est point de belles à les entendre dont il n'ait eu les faveurs. Ils les nomment, et n'ayant pu toucher à leur personne, ils flétrissent leur réputation. Va, maintenant, odieux geôlier d'une jeune beauté, que gagneras-tu à l'enfermer sous les verrous de cent portes ? À quoi bon les précautions lorsque des bruits d'adultère s'attachent à son nom et qu'on cherche à faire croire de cette femme ce qu'elle ne fut jamais ? Pour nous, ne parlons qu'avec retenue de nos amours véritables et enveloppons-les du plus impénétrable mystère. N'allez pas surtout reprocher à une belle ses défauts. On ne saurait trop gagner à être réservé sur ce point. Celui qui portait une aile à chaque pied ne reprocha point à Andromède la couleur de son teint. Chacun blâmait la taille démesurée d'Andromaque. Hector seul disait qu'elle était d'une mesure ordinaire. Accoutumez-vous à souffrir ce qui vous déplaît. Vous vous y ferez à la longue. L'habitude rend tout supportable. Mais un amour naissant s'effarouche de tout. La jeune branche greffée, sous l'écorce d'où elle reçoit son suc nourricier, s'ébranle et tombe au premier vent. Mais qu'elle ait le temps de s'affermir, elle sera bientôt capable de lutter contre les orages, et devenue souche vigoureuse, elle se parera à son tour de toutes les richesses végétales qu'elle aura adoptées. Des déformités disparaissent avec le temps. Ce qui fut d'abord imperfection cesse un jour d'en être. L'odeur émanée de la dépouille des taureaux blesse un odorat qui en est pour la première fois affecté, puis elle finit par le laisser insensible. Pallions les défauts par les dénominations les moins choquantes. La femme, dont la carnation est basanée comme la poix d'Illyrie, appelons-la une jolie brune. Cette autre, dont le regard est équivoque, disons qu'elle ressemble à Vénus. Celle-ci est d'un blond hasardé, c'est la couleur de Minerve. Celle-là est d'une maigreur à faire croire qu'elle vit à peine. C'est un corps svelte et élancé. L'une est ridiculement petite, c'est la légèreté même. L'autre est chargée de graisse, c'est un heureux embonpoint. Couvrons enfin chaque imperfection de la qualité qui en approche le plus. N'interrogez jamais une femme sur son âge, et ne lui demandez pas sous quel consul elle est née. Ces questions sont du ressort d'un censeur rigide. Gardez-vous-en surtout si celle à qui vous les adressez n'est plus de la première jeunesse, si son bon temps commence à passer et les cheveux gris à paraître. Jeunes gens, cet âge, ou même un âge plus avancé, n'est pas stérile en plaisir. C'est un champ qu'il faut ensemencer. Il donnera un jour sa moisson. Supportez la fatigue, puisque les forces de vos premières années vous le permettent. La vieillesse, à la démarche lente et affaissée, ne viendra que trop tôt vous surprendre. Parcourez les mers, sillonnez les champs, endurcissez-vous sous les drapeaux sanglants de Mars, ou livrez-vous tout entier au service des belles. C'est aussi là une sorte de guerre où l'on peut recueillir de riches trophées. Ajoutez que les femmes, déjà sur le retour, sont plus savantes dans l'art d'aimer. Elles ont pour elles l'expérience. Et c'est l'expérience qui perfectionne tous les talents. Pour réparer l'outrage des ans, elles mettront tout en œuvre. Elles inventeront 1000 stratagèmes ingénieux pour dissimuler leur vieillesse. Chez elles, le plaisir a des formes tellement variées qu'on tenterait en vain d'en faire le détail. Chez elles encore, la volupté naît sans qu'on la provoque. Cette volupté qui charme le plus, celle que partagent à la fois et l'amante et l'amant. Je hais des embrassements dont la sensation n'est pas réciproque. Ainsi, je suis de glace aux caresses d'un adolescent. Ainsi, je ne puis souffrir la femme qui ne se rend que par nécessité, qui reste froide et pense à ses fuseaux dans les bras d'un époux. Un plaisir accordé par devoir m'est odieux, et je dispense ma maîtresse de tout devoir envers moi. J'aime que sa voix agitée soit l'expression du bonheur qu'elle éprouve. Je veux l'entendre me supplier de ralentir ou de presser ma course. Je veux lire dans ses regards affaissés le ravissement de ses sens et mon triomphe. Je veux enfin que, languissante et anéantie, elle demande grâce et se refuse pour quelque temps à mes caresses. La nature n'a point accordé de telles jouissances à la première jeunesse. Ce n'est d'ordinaire qu'après le 7e lustre qu'on commence à les éprouver. Que les plus pressés boivent le vin encore vert. Pour moi, je ne recevrai dans ma coupe que celui dont la vieillesse généreuse date des anciens consuls. Le platane, jeune et frêle encore, résiste à peine aux ardeurs de Phébus, et l'herbe, nouvellement coupée, blesse le pied nu qui la foule. Quoi ? Pourriez-vous préférer Hermione à Hélène, et, gorgée, selon vous, l'emporterait sur sa mère ? Ainsi, quiconque voudra goûter les fruits de l'amour dans leur maturité obtiendra, pour peu qu'il persévère, le prix de sa constance. Mais déjà, confident de leurs ardeurs, le lit vient de recevoir les deux amants. Les portes du temple sont fermées. Muse, garde-toi d'en violer l'enceinte. Ici, ton intervention est inutile. Les paroles, alors si éloquentes, jailliront spontanément de leur bouche. Leurs mains ne seront point oisives, et les doigts sauront découvrir le sanctuaire où l'amour trempe ses flèches. Ainsi, jadis en usait avec Andromaque, cet Hector brave au champ de bataille comme au champ de l'amour. Tel aussi se montrait le grand Achille lorsque, fatigué des combats, il venait sur sa couche moelleuse presser dans ses bras sa captive. Tu permettais, ô Briseis, à ses mains teintes du sang des Troyens, de t'enlacer avec ivresse. Esclave voluptueuse, ce que tu aimais le plus alors, n'était-ce pas de penser que tu enchaînais toi-même ses mains triomphantes? Croyez-moi, ne hâtez pas le terme de la volupté. Éloignez-le avec une lenteur mesurée. Mais parvenue à la source des jouissances, la femme enivrée appelle les attouchements. Qu'une pudeur déplacée ne vous arrête pas. Vous verrez alors trembloter l'œil de votre maîtresse, semblable au soleil dont la lumière se réfléchit dans le cristal des eaux. Puis viendront les plaintes aux doux murmures, les soupirs voluptueux, les tendres gémissements et toute l'éloquence appropriée à cette scène. Mais gardez-vous de déployer trop les voiles de votre esquif et de devancer celui de votre maîtresse. Ne permettez pas non plus qu'elle vous laisse en arrière. Entrez ensemble au port. La volupté est au comble lorsque, vaincus par elle, les deux amants succombent en même temps. Usez de ces avis si rien ne vous presse et si la crainte ne vous force pas d'accélérer vos furtives jouissances. Mais si tout retard peut être fatal, alors penchez sur les avirons, faites force de voile et pressez de l'éperon les flancs de votre coursier. Mon ouvrage approche de sa fin. Accordez-moi la palme, aimable jeunesse, et couronnez ma tête parfumée de guirlandes de myrte. Autant chez les Grecs, Podalyre excella par sa science médicale, Pyrrhus par sa bravoure, Nestor par son éloquence, Calcas dans l'art de la divination, Ajax par son intrépidité, Automédon par son adresse à conduire un char, autant j'excelle dans l'art d'aimer. Amant, célébrez votre poète, chantez mes louanges, qu'elle redise mon nom à l'univers entier. Je vous ai donné des armes. Achille en reçut de Vulcain. Qu'elles soient victorieuses en vos mains, comme elles le furent aux mains d'Achille. Et que quiconque, par mon secours, triomphera d'une Amazone, grave sur ses trophées, Ovide fut mon maître. Mais déjà le beau sexe me demande des leçons. Oui, jeune fille, c'est à vous que je réserve maintenant celle que je vais tracer.